Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'est pas le premier dimanche du mois, mais c'est tout comme. Donc vous vous rappelez que dimanche dernier, on a reçu le frère Mathieu Moury qui nous a apporté le message. Et aujourd'hui, donc, nous reprenons notre cycle de prédication basé sur le thème de l'année. Combat, le bon combat. Et nous parcourons la deuxième lettre de Paul à Timothée. Aujourd'hui, on lira 2 Timothée chapitre 3, les versets 10 à 17. 2 Timothée chapitre 3, les versets 10 à 17. On était resté sur la prédication du mois passé, donc les premiers versets du chapitre 3 qui commençaient ainsi, donc chapitre 3 verset 1, sache bien que dans la période finale de l'histoire, ou dans certaines traductions dans les temps de la fin, les temps seront difficiles. Sache bien que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, etc., etc. Vous vous rappelez que la liste était longue. Et Paul continuait, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Paul continuait au verset 8 en disant, de même qu'autrefois, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là, ces hommes des temps de la fin, s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Paul donc avait eu ces mots pour décrire les temps de la fin, ces derniers jours qui seront difficiles parce que les hommes se détourneront de Dieu. Et là à présent, il commence au verset 10 en disant, mais toi, Timothée, pour ce qui te concerne, toi, Timothée, lisons donc la suite. Verset 10. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Jusqu'ici, la parole de Dieu et le peuple de Dieu répond Amen. Amen. Comme j'ai dit en introduction, Paul veut que Timothée soit lucide. Les hommes des temps de la fin seront coriaces, n'aimant pas Dieu, aimant leur propre plaisir. Mais quant à toi, Timothée, pour ce qui est de toi, tu sais de qui suivre les traces. Même si tu es entouré d'hommes mauvais qui se détournent de Dieu, tu sais qui prendre pour modèle. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que tout simplement, Paul commence à se. Donc, dans ce verset 10, il dit: mais toi, tu as pu m'observer, moi, Paul. Tu m'as suivi. Tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Qu'il est bon pour un jeune chrétien, et même pour un vieux chrétien, d'avoir des modèles de vie chrétienne. Paul dit oui, même si autour de toi, tu vois des choses qui sont opposées à l'évangile, mais quand même, tu n'es pas sans modèle. Tu as pu me suivre, tu as pu m'observer, et tu sais quels ont été, et Paul commence par mon enseignement. À coup sûr, c'est la chose la plus importante que Paul veut transmettre à Timothée. La saine doctrine, l'enseignement véridique de l'évangile. Tu as pu m'observer dans mon enseignement. Ensuite, tu as pu m'observer dans ma conduite, dans mes projets. Ce n'était pas simplement un enseignement comme ça et puis c'est tout, mais tu as pu observer la manière dont je l'ai appliqué dans ma conduite de tous les jours, dans les projets que je formais. Je pense qu'il parle notamment de ses projets d'évangélisation, les projets missionnaires pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans ma marche chrétienne de tous les jours, tu as pu observer ma foi, ma patience, mon amour et mon endurance. Tout ça, en me suivant, Timothée, tu as pu les observer. Suis mes traces. Quelles vertus chrétiennes que sont la foi, la patience, l'amour, l'endurance, la persévérance. Voyez, Paul là est en train de dire: ce que tu as reçu, c'est pas simplement un enseignement théorique, mais tu as pu le voir mis en pratique chaque jour dans ma vie à moi, Paul. Fais-en de même. Et Paul de rajouter: tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium, à Lystre. Et Paul d'ajouter comme un soupir: quelle persécution en effet n'ai-je pas subi, mais d'ajouter: et chaque fois le Seigneur m'en a délivré. Tout au long de cette deuxième lettre de Paul à Timothée, je constate que Paul revient souvent sur le thème de la souffrance. Il rappelle à Timothée que c'est inévitable pour celui qui veut suivre le Seigneur. C'est inévitable. Et moi-même, Paul, tu sais ce que j'ai subi à Antioche, à Iconium, à Lystre. Paul a été bien persécuté, frôlant la mort, étant lapidé, chassé, exclu. Et dans les chapitres précédents, Paul d'exhorter Timothée: n'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte de mes souffrances. Au contraire, tu as vu dans ces souffrances que j'ai subies comment Dieu m'en a toujours délivré. Suis mon exemple et suis mes traces. Et Paul de continuer au verset 12 en disant à Timothée: en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est pas que mon cas à moi, Paul, est exceptionnel parce que Dieu m'a appelé à une mission particulière, mais c'est le lot de tous ceux, dit-il, qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ. Paul avait dit au début du chapitre 3 que les hommes de la fin montreront les signes extérieurs de piété, mais ils en réuniront la force. Mais pour celui qui veut vivre la vraie piété dans l'union avec Jésus-Christ, la persécution est inévitable. Je veux faire remarquer que ce que Paul dit ici, c'est pas uniquement seront persécutés que ceux qui professent la foi en Jésus. Ça va plus loin. C'est ceux qui la vivent, cette foi, vivre dans la piété. Ceux qui, méditant la parole de Jésus-Christ, veulent la vivre, la mettre en pratique. Ceux-là, à coup sûr, subiront d'une manière ou d'une autre une persécution dans ce monde, et surtout dans ces temps de la fin. Que ce soit une persécution légère, c'est-à-dire peut-être des exclusions ou des moqueries, ou une persécution extrême, allant jusqu'à la mise à mort. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit aujourd'hui autour de nous dans certains pays. Celui qui est décidé à vivre dans la piété par son union avec Jésus-Christ doit être préparé à subir des persécutions. Comprends bien ça, Timothée, et endurcis-toi. Endurcis-toi en regardant au modèle qui t'ont été transmis, ce que tu as pu suivre, ce que tu as pu observer. Mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Voici les modèles que Paul laisse à Timothée. Et Paul de rajouter, mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. C'est une espèce d'engrenage. Pour toi, Timothée, reproduis le modèle que je t'ai laissé. On s'imite mutuellement et Timothée est appelé aussi à être un bon modèle pour tous ceux à qui il va prêcher la parole. C'est ce qu'on verra le mois prochain au chapitre 4. De même, à l'opposé, les hommes méchants reproduisant aussi les mauvais modèles, s'enfoncent de plus en plus dans le mal, trompant les autres, trompés eux-mêmes. Paul de dire au chapitre 2, verset 8, alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Pour Paul, il y a aussi là la main du diable qui les garde captifs et assujettis à sa volonté. Face aux hommes de la fin, face au temps de la fin qui seront difficiles, Timothée est invité à reproduire le bon modèle qu'il a reçu en Paul. Mais pas que. Paul d'ajouter à partir du verset 14, pour toi, il interpelle encore une fois, pour toi Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as reçu? La suite du verset 14 dit ceci, tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Paul est en train de dire, Timothée, attache-toi à ce que tu as reçu. Avant même de préciser ce qu'il a reçu, il dit oui, mais tu sais de qui tu l'as reçu depuis ton enfance. Et on lit au début de cette épître que Timothée a été élevé par sa mère et sa grand-mère dans un environnement où la foi chrétienne lui a été transmise. La foi chrétienne a été exposée devant lui par la vie de piété de sa mère et de sa grand-mère. Timothée est aussi invité à se rappeler les enseignements de Paul lui-même et peut-être aussi d'autres chrétiens de la ville de Lystre, la ville natale de Timothée. Tu sais de qui tu l'as reçu. Tu as pu observer leur vie. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu les saintes écritures. Tu as reçu les saintes écritures. Reste attaché aux saintes écritures. Pourquoi? Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes écritures. On se demande bien ce que Paul entend par les saintes écritures. Les saintes écritures, c'est au moment où Paul écrit cela pour Timothée, probablement ce qu'il a médité avec sa mère et sa grand-mère, c'est surtout l'Ancien Testament, les saintes écritures. Mais à cela, Paul a certainement en tête l'Évangile et les épîtres que lui-même, Paul, a écrites. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2 Pierre chapitre 3, deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 13 à 16 nous disent ceci. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc là, Pierre fait référence aux écrits de Paul. Et il dit ceci, il a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres écritures. Pierre là met au même niveau les écritures de l'Ancien Testament et les épîtres, les lettres que Paul a laissées. Toute l'écriture, les saintes écritures que tu as reçues, Timothée, c'est ce que tu as appris depuis ton enfance, et c'est ce que je t'ai transmis. Les saintes écritures donnent la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu, c'est en écoutant, en méditant, en se laissant enseigner par la parole de Dieu que naît la foi, la vraie. La vraie foi en Jésus-Christ qui conduit au salut. Donc, dans un premier temps, Paul dit à Timothée, reste attaché au modèle que tu as reçu, tu m'as observé, tu m'as suivi. Reste attaché aux saintes écritures qui t'ont été enseignées depuis ton enfance. Parce que c'est par ces saintes écritures-là que tu peux rester attaché au Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur du salut. Et Paul d'enchaîner sur ces versets, le verset 16 et 17, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfait parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Voici une des affirmations magistrales et peut-être la plus magistrale qu'il y a dans toute la Bible concernant les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. La Bible que nous lisons, que nous méditons, est inspirée de Dieu. Le mot donne l'impression, c'est-à-dire c'est comme si Dieu a soufflé dans l'esprit de ceux qui l'ont écrit, et ils l'ont écrit sous l'inspiration divine. C'est la pensée même de Dieu, le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu qui a été retranscrite dans ces saintes Écritures. Je me demande si nous, chrétiens d'aujourd'hui, comme Paul, on a conscience de ça. J'ai dans ma chambre, ou dans mon bureau, ou sur mon étagère, l'Écriture inspirée de Dieu. Le Dieu d'éternité, le Dieu créateur de toutes choses, s'exprime et parle et a noté par écrit ce qu'il veut qu'on sache. Et cette parole est utile. Fort utile. Elle est utile pour enseigner. C'est-à-dire, elle est utile pour apprendre, pour être à l'école de Dieu, comme des élèves qui écoutent un enseignant et qui apprennent. Qui écoutent et qui retiennent. Elle est utile pour réfuter. Oui, de temps en temps, il faut réfuter, c'est-à-dire pour contredire, pour dire, mais non, ce que tu penses, ce que tu fais, c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit dans la parole qu'il a inspirée. Voici ce qu'il faut faire. Elle est utile aussi pour redresser. Une fois qu'on a refuté, c'est-à-dire non, tu te trompes. Bah, voici ce qu'il faut faire. Redresser. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Une fois redressée, elle est utile pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Refuter, redresser, apprendre. La parole de Dieu est utile dans toutes les étapes de la vie chrétienne. Au pécheur qui a besoin de se repentir, la parole de Dieu est là pour réfuter, pour lui révéler son péché. Au pécheur repentant, il est utile de lui montrer la bonne voie à suivre, le chemin que Dieu souhaite pour sa vie. Et chaque jour dans sa marche, il a besoin d'être enseigné, d'être nourri, pour mener une vie conforme à ce que Dieu attend de l'homme. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. L'homme de Dieu n'est pas l'homme des temps de la fin, qui fait semblant d'avoir la piété, mais qui recherche à faire sa volonté, à suivre son chemin. L'homme de Dieu se fait reprendre par la parole. Il dit, ah bon, c'est ça? Ah zut, je me suis trompé. Vite, je reviens sur le droit chemin. L'homme de Dieu dans ses projets cherche le conseil de la parole de Dieu. Il la cherche où? Dans la parole que Dieu a inspirée. Cette parole de Dieu équipe parfaitement et prépare l'homme de Dieu à accomplir toute œuvre bonne. Amen. C'est fort ce que Paul est en train de dire à Timothée. Veux-tu accomplir dans ta vie des œuvres bonnes? Voilà la question. Oui, je veux bien accomplir dans ma vie des œuvres bonnes. Je veux bien faire ce que Dieu veut que je fasse. Mais comment faire? Il y a plein de choses qui s'offrent à moi. Il y a plein de choses qui me tentent, qui me séduisent. Plonge ton regard dans les saintes Écritures. Car elles sont utiles pour l'homme de Dieu. Et cette écriture, ces saintes écritures équipe et prépare parfaitement l'homme de Dieu pour accomplir des œuvres bonnes. Alors regarde ta Bible un peu. Regarde le trésor que tu as dans les mains. C'est dingue. Un petit livre de quelques pages. Voyez, c'est marrant la vie. Les choses de Dieu sont souvent simples. Oui, les choses de Dieu sont simples. C'est vrai, on peut se dire, c'est vrai, comme dit Pierre, la parole de Dieu est souvent compliquée. Mais au final, je trouve qu'elle est simple. Parce qu'il faut quand même le faire. Dieu l'a mis par écrit. C'est écrit. Et c'est publié en des milliards d'exemplaires. Mais l'homme veut-il vraiment se conformer à ce que Dieu a inspiré? Voici la question. Cette parole de Dieu est efficace et suffisante pour préparer et équiper l'homme de Dieu à toute œuvre bonne. Une fois qu'on dit ça, il faut faire attention. Parce que les saintes écritures elles-mêmes peuvent être corrompues, détournées et utilisées dans un but contraire à l'inspiration de Dieu. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est l'épisode de la tentation de Jésus-Christ dans le désert où le diable lui-même utilise des versets bibliques extraordinaires. Le diable aussi connaît la Bible. Il semble bien la connaître. Mais il l'utilise dans un but pervers. Et Jésus de répondre à chaque verset que lui cite le diable avec d'autres versets. Mais ça alors, chacun utilise des versets bibliques. Ah, mais comment faire? C'est pour ça qu'il est important pour l'homme de Dieu, quand on dit l'homme de Dieu, c'est aussi la femme de Dieu, de connaître les saintes écritures comme un corpus, pas une petite partie. Le diable a pris des petits versets comme ça, papa, jette-toi du haut du temple. Et Dieu a dit dans le psaume qu'il enverra ses anges. Ah, mais Dieu a dit aussi, attention, ne me mets pas à l'épreuve, ne me tente pas. Hé, c'est pas à toi de me donner des ordres, vous voyez? Il faut connaître et méditer toute la parole de Dieu. Si on dit que la Bible est inspirée, alors je me dis, mais zut, alors j'ai acheté ça à la maison de la Bible, c'est inspiré de Dieu, et il y a dedans tout ce qu'il faut pour m'aider à faire la volonté de Dieu, à faire les bonnes œuvres. Mais alors je me dis, mais ça alors, je lui dois un certain respect. Je dois respecter l'autorité de la parole de Dieu. Je dois m'en imprégner. Je dois m'en nourrir. Je dois l'aimer. Pas aimer la Bible telle que c'est le livre. Il faut dire, je vais l'entretenir chaque jour. Encore que c'est bien de le faire. Faut pas qu'il y ait trop de poussière. Mais c'est-à-dire, c'est le contenu qui est inspiré par Dieu. Ça doit être précieux pour moi. Quand je viens à l'église le dimanche, je veux bien que cette parole qui est inspirée par Dieu me soit enseignée. Et je veux la retenir. J'en fais quelque chose dans ma vie. Pour que cette parole donne du fruit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui me parle. Et donc, je veux l'écouter pour justement faire ce que Dieu veut que je fasse. Quand il y a des études bibliques, je veux bien y participer. Parce que je veux comprendre cette parole. Il y a trop de livres, il y a trop de chapitres. Ah, je ne peux manquer aucune occasion. Parce que tout seul, c'est tellement dense. Les prédications dans notre assemblée sont mises sur Internet. Peut-être qu'il y a des parties que je n'ai pas bien cernées. Il est bon, des fois, je le fais de temps en temps, de les réécouter. Pour bien comprendre encore tel point qui a pu m'échapper. Ou alors, s'il reste encore des questions, des sujets obscurs ou autres, j'ai des frères et sœurs en Christ. J'ai des anciens. J'ai des responsables des femmes. Comme Timothée, je peux me chercher des modèles de vie chrétienne. Et pour ça, que Dieu nous aide tous. Ce n'est pas que le pasteur et les anciens. Tous les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu sont appelés à être des modèles de vie chrétienne. Aussi, il faut qu'on fasse attention au sein de l'Église en termes d'exemplarité. Vous voyez, notamment pour les jeunes, les jeunes souvent sont moins attentifs à ce qu'on va dire, bien que c'est important, mais ils sont très attentifs à ce qu'on va faire. Aussi, je surveille ma vie, je surveille mes pas, je surveille ce que je dis. Oui, c'est une question de discipline chrétienne. Moi-même, quand je suis arrivé dans cette église, je ne connaissais rien de la Bible, mais j'ai pu observer des vies chrétiennes. Je me suis dit, tiens, ça alors, c'est ça être chrétien? Ça me plaît bien. Ça m'a plu beaucoup quand je suis arrivé ici. Pas citer des noms, il y a eu les M.E. Weber, les Sylvain Lombé, les David Brown. Pourquoi pas? On peut aussi citer des noms, vous voyez, il ne faut pas qu'on soit aussi trop si modeste. C'est-à-dire que c'est pas de la vantardise pour citer des noms, mais c'est ça l'évangile. Que Dieu me fasse grâce aussi aujourd'hui d'être, je l'espère pour d'autres, des modèles de vie chrétienne. Et que Dieu nous fasse tous grâce d'être chacun des modèles de vie chrétienne. Mais ces modèles ne serviront à rien s'ils ne sont pas imprégnés du contenu des saintes Écritures. Paul dit ça à Timothée parce qu'il sait bien, c'est ce qu'on verra dans les chapitres qui suivent. Timothée va certainement passer des temps bien difficiles. Paul ne sera probablement plus là pour l'aider. Il veut qu'il soit lucide. Les temps de la fin seront difficiles. Mais Timothée, tu n'es pas désarmé. Rappelle-toi tes modèles et médite les saintes Écritures. Elles sont suffisantes, pleinement suffisantes. Si tu les médites avec vérité, avec désir de les appliquer, elles sont suffisantes pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que l'église du Blanc-Ménil reçoit en ce matin cette exhortation de Paul à Timothée? Reste attaché au modèle que tu as reçu. Reste attaché aux saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un dans cette salle reçoit ce message? Amen. Vous êtes sûr?
Amen.
Je vais prier. Seigneur, nous méditons ta parole et avec des textes écrits de manière si claire. Que faire? Que dire? Si ce n'est, Seigneur, que fléchir le genou et vraiment t'implorer, Père, de nous aider à vraiment nous plonger, demeurer dans ta parole. Fais naître en nous cette amour pour toi, cet amour pour ta parole. Fais naître en nous cette endurance, cette persévérance, ce désir envers et contre tout de nous tenir sur le chemin que tu indiques dans ta parole. C'est vrai, Seigneur, qu'en tant que prédicateur, nous pouvons crier haut et fort, nous agiter, mais nous savons que c'est ton esprit, le même esprit qui a inspiré ta parole, c'est ton esprit qui brise la dureté du cœur de l'homme. Ton esprit seul est celui qui brise le cœur dur et y fait pénétrer ta parole, afin qu'elle soit comme une semence dans une terre fertile, qui donne du fruit, qui fait notre joie. Ô Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Elle est précieuse pour nous. Elle nous rappelle, Seigneur, que oui, tu es le Dieu d'amour. Et cet amour, tu l'as manifesté de manière sublime à la croix de Golgotha, en venant donner ta vie, verser ton sang pour notre salut. Et les saintes Écritures sont celles qui nous conduisent à connaître ton plan, à connaître ton projet, qui nous donnent la vraie sagesse de le comprendre, de le recevoir avec foi, de le croire. Et c'est ainsi que tu nous donnes le moyen de salut, le moyen d'être sauvé, le moyen de demeurer dans l'union avec Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur, hommes et femmes de Dieu. Équipe-nous Affermis-nous. Donne-nous vraiment de progresser, de grandir en étant conforme à ta volonté. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.